Vous êtes constitutionnaliste, maître de conférences en droit public. En paraphrasant le titre d'un film sorti en 1996, on pourrait affirmer que la question qui se pose aujourd'hui n'est pas « y aura-t-il de la neige à Noël ?» mais « y aura-t-il un budget à Noël ?» Pour prévoir l'évolution du climat parlementaire des prochaines semaines, vous avez le profil idéal. Lors de son discours de politique générale du 14 octobre dernier, le Premier ministre Sébastien Lecornu avait confirmé qu'il renoncerait au 49-3 et il avait martelé sa promesse en utilisant 7 fois la même formule.
Ce que je vous propose, c'est de trouver un chemin commun malgré les divergences. Le gouvernement proposera, nous débattrons, vous voterez.
Le gouvernement a proposé, les députés ont débattu pendant 125 heures, ils ont amendé le projet de loi de finances et dans la nuit de vendredi à samedi dernier, ils ont en effet voté.
Pour 1 contre 404. L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Alors, après ce triomphe historique, que peut-il se passer ? Tout d'abord, la version originelle du texte est actuellement discutée au Sénat, là où la majorité de droite et du centre compte bien imposer sa loi, comme le déplore le président du groupe socialiste Patrick Kanner.
Quand on dit on va carchériser le travail de l'Assemblée nationale, on va mettre fin à l'hystérie fiscale, c'est le président Larcher lui-même qui a prononcé ces mots très durs, je considère qu'on n'est pas dans une relation normale entre l'Assemblée et le Sénat.
Selon vous, Benjamin Morel, la situation qui en découlera est claire. Les sénateurs vont adopter une version très à droite, inadoptable par l'Assemblée nationale, et on n'aura jamais un budget à temps. Reste 3 options pour sortir de l'ornière. 1. Les ordonnances. Le gouvernement adopte le budget sans passer par la procédure législative, mais il risque une motion de censure. 2. Les lois spéciales qui autorisent l'État à lever l'impôt et à emprunter sur la base du budget de l'année précédente. Des rustines temporaires, donc. Et enfin, le 49-3, à propos duquel vous déclarez... Bien utilisé, il peut permettre de trouver un modus vivendi acceptable et moins coûteux pour tout le monde. Bref, retour à la case départ, et pour reprendre le titre d'un autre film, datant lui de 1993, tout ça pour ça.
Excellent. Benjamin Morel, revenons quand même sur ce vote incroyable. Il y a quelqu'un qui a connu son quart d'heure warholien, c'est le député qui a voté pour.
Oui.
Député d'Eure-et-Loire, on connaît son nom maintenant, il s'appelle Harold Huvard. Ils ont tous voté contre, y compris les députés de la majorité présidentielle. Comment vous comprenez ça ?
Bah, tout bêtement, parce que la méthode que l'on a utilisée là, pour tenter de faire passer ce budget, c'est une méthode qui ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup, il y a une reparlementarisation du régime, c'est pas vrai. Un régime parlementaire classique, ça fonctionne pas comme ça, ça fonctionne pas comme ça. En Allemagne, en Italie, partout. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Vous formez une majorité, vous consolidez votre majorité, et dans votre majorité, il y a un élément qui est non négociable, tous les gens qui sont dans la majorité votent le budget. Il n'y a personne qui prend un budget, qui l'envoie dans le Parlement et qui dit « vous l'amenderez comme vous voudrez » et à la fin, bah, vous mettrez d'accord pour voter ce texte. Ça ne peut pas réellement fonctionner, en tout cas pas depuis le 19e siècle. Et donc dans ce cadre-là, bah, ce qui s'est produit là, c'est peu ou prou d'ailleurs ce qui s'est produit l'année dernière également. Et donc, bah, il va falloir changer de méthode ou en tout cas trouver une autre voie.
Enfin, il y a quand même une issue, vous en parliez tout à l'heure, c'est les ordonnances. En fait, la Constitution a tout prévu. On peut avoir un budget avec des ordonnances. Quel est le problème ?
Alors on peut avoir un budget par voie d'ordonnances. Alors un peu d'historique, on les a jamais utilisés, les ordonnances de l'article 47. Hein. C'est quelque chose qui nous vient du droit allemand, de la Constitution bismarckienne et de la Constitution de Weimar. À l'époque, le premier qui les utilise, c'est Otto von Bismarck, et il explique grosso modo à l'époque au Reichstag, le Parlement allemand, que l'Empire allemand n'est quand même pas tout à fait une démocratie. Les ordonnances, c'est très fort. Quand on entend ordonnance, on pense à François Mitterrand, la querelle des ordonnances. C'est pas du tout la même disposition. Ça, c'est les ordonnances de l'article 38 de la Constitution. Là, on parle des ordonnances de l'article 47
notez,
de la Constitution.
Notez, les étudiants, notez.
Exactement.
Ouais.
Or, il faut bien comprendre que le régime parlementaire en France, depuis 1816, il a été fondé sur quoi ? Sur le fait que les députés votaient ou ne votaient pas le budget. Ce serait la première fois qu'on a un Parlement qui ne se prononcerait pas sur un budget. C'est constitutionnellement possible, même si on pourrait revenir, on ne sait pas exactement ce qu'on peut mettre dans les ordonnances. Néanmoins, démocratiquement, ça aurait un vrai coût. D'abord parce qu'on ouvrirait une fenêtre d'Overton, parce que si on n'a pas de budget cette année, on n'en aura pas l'année prochaine à quelques mois d'une présidentielle. Et ensuite, parce que derrière, on pourrait s'habituer chaque année à ne plus avoir de Parlement qui vote un budget. Et ça, c'est comme le fondement du contrôle parlementaire.
Et les lois spéciales ?
Les lois spéciales.
Expliquez encore aux étudiants qui nous écoutent et qui nous regardent ce que c'est que les lois spéciales.
Les lois spéciales, mais les Français les connaissent, on les a vues l'année dernière.
Ouais.
L'année dernière, souvenez-vous, Michel Barnier tombe au mois de décembre, c'est un peu embêtant, et donc on vote ces lois spéciales qui, en fait, n'autorisent que deux choses. Prélever les impôts sur la base de l'année précédente et emprunter sur les marchés. Il n'y a pas de shutdown en France.
Justement, ça c'est le spectre auquel tout le monde pense par rapport aux États-Unis. Ce qui se passe,
les
fonctionnaires pas payés, ça n'existe pas.
Non, on doit toujours, c'est même pas qu'on peut, c'est qu'on doit payer les fonctionnaires. Les cartes vitales fonctionneront toujours, il n'y a pas de problème. Mais derrière, si vous exécutez les dépenses, sur la base de l'année dernière, ce qu'on appelle les crédits votés, bah, il faut quand même avoir des recettes à mettre en face. Et ça, c'est le premier problème. Ensuite, les lois spéciales, bah, elles ont deux problèmes fondamentaux. Premièrement, tout ce qui est réindexation des impôts, on oublie. Donc, par exemple, le barème sur l'impôt sur le revenu. Deuxième élément, bah, les dépenses, c'est uniquement les dépenses qui sont les dépenses, on va dire, de fonctionnement global de l'État. Par exemple, vous pouvez payer vos militaires, c'est heureux, et vous ne pouvez pas leur acheter de nouveaux avions. Et donc, ça fait peut-être le pont avec un débat que vous aurez un peu plus tard. Et dans ce cadre-là, eh bien, vous comprenez bien que vous avez des politiques publiques qui sont un peu à l'arrêt. Puis derrière, les avions, il y a qui ? Ben, y a des entreprises. Mm-hmm. Les entreprises, elles ne peuvent pas avoir de commandes publiques. Elles ont des sous-traitants. Et donc, c'est l'ensemble de votre modèle économique
du tissu économique
fragilisé. Qui est... Et donc, si ça dure 2 mois, ça va. Si ça dure plus, c'est embêtant. Mm-hmm. Donc, ça n'exclut pas de voter un budget. Simplement, ça reporte l'échéance.
Jean-Marc Borrell, il y a un pays où ça n'est pas un problème, on va l'évoquer avec vous et avec Anna Ndiaye, l'Espagne. Il n'y a pas de budget et pourtant la croissance est florissante ou presque.
Ouais. 3 ans et que nos voisins espagnols n'arrivent pas à se mettre d'accord pour voter un budget. Le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez peine à réunir des alliés puisqu'il n'a pas de majorité au Parlement. Une situation qui est quand même assez similaire à la nôtre. Et donc, depuis 2023, le budget est reconduit, comme vous venez de l'expliquer, à l'identique. Les retraites et salaires des fonctionnaires sont versés, les dépenses gelées. Alors, on pourrait croire que ça allait paralyser le pays, mais en fait, pas du tout. L'économie espagnole est aujourd'hui la plus dynamique de toute la zone euro, avec une croissance insolente. En 2025, elle devait frôler les 3% du PIB, bien loin devant la nôtre, hein, qui est quasiment au point mort. Et en plus, l'Espagne réduit son déficit public plus vite que prévu. En 2026, il devrait d'ailleurs être inférieur à celui de la très bonne élève, l'Allemagne. Et ça, c'est du jamais vu en 20 ans. Alors visiblement, ça ne semble pas si grave si cette année, on n'arrive pas à voter un budget.
Alors, les dispositions ne sont pas tout à fait les mêmes en Espagne et en France, notamment sur ce que vous pouvez faire, en effet, lorsque vous n'avez pas de budget voté. Par ailleurs, ben, il n'est pas certain qu'on arrive à réduire les déficits, notamment les déficits sociaux. Eh bien, à ce moment-là, il y a également des dépenses qui, naturellement, vont croître. Donc, ce n'est pas forcément une bonne opération.
On a une croissance qui est très faible.
On a une croissance qui est très faible. Et puis, par ailleurs, encore une fois, on ne peut pas réajuster certaines choses. Donc, on va avoir quand même, à terme, besoin d'un budget. Et on parlait de l'année dernière. La différence avec l'année dernière, c'est que l'année dernière, on avait 2 choses qui étaient différentes. C'est que, un, on n'avait pas d'élection municipale.
Et ça, alors évidemment, elles arrivent en mars.
Elles arrivent en mars. Et donc, vous avez des partis politiques tendus. C'est-à-dire que se mettre d'accord sur un budget en décembre, c'est une chose. Se mettre d'accord en pleine élection
parce
municipale.
Parce qu'ils sont en campagne.
Ils sont en campagne. Et ensuite, bah, l'année dernière, on va peut-être y revenir aussi, on avait un instrument qu'on aime détester, mais qui n'est pas si inutile, qui s'appelle le 49-3.
Bah, alors justement, mais est-ce que c'était vraiment une erreur de s'en priver? Ça paraît plutôt démocratique de la part d'un gouvernement de se dire je ne veux pas aller aussi loin et je laisse la main aux parlementaires.
Vous savez, le 49-3, c'est pas une invention de De Gaulle et de Debré, hein, les deux papas de la Constitution. C'est une invention de Pierre Flimelin et Guy Mollet, ces 2 anciens présidents du Conseil de la 4ème République qui s'étaient posé la question, mais de quoi est-ce qu'on aurait eu besoin pour que la 4ème République tienne? Quand vous avez des gouvernements minoritaires, tenir, notamment sur un budget, est très compliqué. Et celui qui s'en servait assez bien, il s'appelait Michel Rocard. Michel Rocard avait une minorité. Mais cette minorité, pour arriver quand même à faire passer les budgets, il avait 2 groupes qui pouvaient ne pas le censurer sur un 49-3. Vous connaissez la procédure, j'ai un texte, et je dis aux parlementaires, soit vous prenez mon texte, soit vous me censurez. Michel Rocard donnait des amendements aux communistes à l'époque, ils tenaient par les communistes ou par les centristes, et in fine, bah, la plupart des 49-3 qu'utilisait Michel Rocard ne donnait même pas vraiment lieu à une motion de censure parce qu'on s'était mis d'accord en amont.
Donc quand les députés ululent en disant c'est un délit de démocratie, on passe par-dessus nous, bah, ils ont tort?
Disons que à l'époque, notamment d'Elisabeth Borne, on a fait un usage extrêmement important, parfois un peu détourné, notamment sur la réforme des retraites, du 49-3. Mais c'est pas parce que l'usage a été abusif que le dispositif n'est pas bon. Et si on revient aux ordonnances, la différence entre un 49-3 et des ordonnances aujourd'hui, si on devait les utiliser, c'est qu'avec un 49-3, au moins il y a un vote. Donc les ordonnances sont beaucoup, beaucoup moins démocratiques qu'un 49-3.
Vous pensez qu'il y a une dissolution en vue, pour terminer?
Objectivement, personne n'y a intérêt. Si on prend les cartes électorales aujourd'hui, une dissolution, ça finit de 2 façons. Soit vous n'avez pas de majorité du tout, voire même en pire, parce que vous aurez plus de RN et donc encore moins d'espace pour construire des budgets, ou bien vous avez une majorité pour le Rassemblement National, c'est moins probable mais c'est possible. Donc pour Emmanuel Macron, qui in fine est le seul qui peut appuyer sur le bouton dissolution, ça finit soit en pression via une instabilité sur peut-être une démission, avec un élargissement en matière de la fenêtre d'Overton, soit sur une cohabitation. Donc on peut parier que l'intérêt des acteurs ne va pas dans ce sens-là. Après, je dois, à l'honnêteté, de vous dire que je n'avais pas prévu la dernière.
Bon, pour ceux qui ne peuvent pas aller vous entendre, à Paris 2, renseignez-vous sur la fameuse fenêtre d'Overton, vous l'avez évoqué deux fois, Benjamin Morel. Et je renvoie à votre ouvrage Le Nouveau Régime ou L'Impossible Parlementarisme, qui est paru en février de cette année aux éditions Passé Composé. Merci infiniment.